Il est 8h12 sur Radio Panique, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et aujourd'hui je suis, comme je vous le disais, en compagnie de deux invités venus nous parler du Marais Wills, c'est Geneviève Kinet et Leïla Ben Salem. Bienvenue à toutes les deux, merci d'être venues. Bonjour.
Merci, donc. Bonjour.
Donc si je vous ai invité, ça fait de nombreux fois que je me dis que ce serait intéressant de parler du Marais Wills ici sur les ondes de Radio Panique. Et donc merci d'avoir accepté cette invitation un peu au pied levé. Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer un peu pour les auditeurs, auditrices qui ne le sauraient pas, qui ne connaîtraient pas cet endroit, ce qu'est le Marais Wills?
Alors, on va tenter la chose. Alors, le Marais Wills, il se trouve à Forêt, donc pas très loin de la gare du Midi, en définitive. Et il se trouve dans la vallée de la Seine. Il est pas loin de la Seine, ce qui fait qu'il est quand même dans une zone particulièrement humide où les habitants forestois souffrent d'inondations et de caves excessivement humide, que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit plus bas à Saint-Denis ou dans le quartier, qui est très dense par ailleurs. Alors, il a une histoire très particulière, le Marais Wills, qui n'est pas un marais, on va comprendre pourquoi, mais au fait, c'est de l'eau de la nappe phréatique qui est remontée après des débuts de travaux de fondation, dans les environs de 2007 vraisemblablement, où le promoteur qui avait le permis pour construire sur le site des anciennes brasseries Willmans Coppens, donc il avait le permis pour construire des bureaux. Et puis 2008 est arrivé, et alors que l'eau montait déjà, le promoteur JCX Immo a abandonné le chantier pour se consacrer à d'autres parcelles qu'il avait achetées dans le quartier, parce qu'en fait c'est un quartier qui a très fort souffert de la faillite des brasseries Willmans Coppens en 88, et donc c'était un peu la bérésina dans le quartier. Donc 2008, c'est la crise bancaire, et par ailleurs on se rend compte, enfin les promoteurs et la région se rend compte que les bureaux, c'est plus ce qu'ils rapportent, hein, et puis qu'on en a fait trop. Donc il va falloir changer d'affectation de la zone, et le temps que ça se fasse, les travaux ne reprennent pas, mais par contre l'eau monte et surtout la biodiversité s'installe dans cette flaque qui, à partir de 2015, a été surnommée par les habitants qui ne le connaissaient pas beaucoup parce que c'est très caché, qui a été surnommé le Marais Wills. Alors, il a été surnommé comme ça parce que un naturaliste, Léon Meganck, a fait un relevé de la faune et de la flore sur place, et celle-ci correspondait à la biodiversité d'un marais. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Marais Wills. En fait, c'est de l'eau de la nappe phréatique dans une immense excavation, hein. On est quand même sur près de 9005 mètres carrés pour ce qui concerne le plan d'eau. Et voilà, en 2017, le promoteur remet un nouveau projet, un projet de 220 appartements sur une dalle de béton, autant de parking, enfin voilà. Donc là, à ce moment-là, les habitants et même associations se présentent à la commission de concertation pour refuser ce projet. Alors c'était pas uniquement pour la biodiversité, c'était aussi pour les problèmes de gestion de l'eau, c'était pour des problèmes de densité, de mobilité, parce qu'en fait le quartier est excessivement dense, donc ça veut dire, et il y a beaucoup de monde par mètre carré, mais en plus c'est excessivement imperméabilisé. Voilà, donc il y avait un manque d'espace vert également, et puis forêt, on y construit de plus en plus, hein, toutes les parcelles ont été construites, donc c'était un peu le dernier bout de sol vivant qui reste. Et voilà, 2018, le promoteur a proposé un projet légèrement réduit, ça n'a pas été accepté par la région, et en 2019, en attendant de savoir si le promoteur recevait son permis ou pas, parce qu'ils étaient en train de négocier vraisemblablement avec la région, bah nous on aimait notre Marais Wills et on a commencé avec des habitants à faire des séances de nettoyage, parce que c'est vrai qu'il était pas très propre, hein. Et donc tous les dimanches après-midi on a fait ce qu'on appelle des crates parties, et ça a vraiment montré à la région et aux propriétaires que les habitants, qu'ils soient forestois d'ailleurs, bruxellois ou même certains venaient de France, défendaient cet endroit assez magique, au fait, beau, bon pour un sentiment de bien-être dans la ville, et très utile, que ce soit utile au niveau de la rétention de l'eau, d'un îlot de fraîcheur, utile pour apprendre, pour se former, pour connaître la biodiversité. Et donc voilà, en 2020, finalement, la région a décidé d'acheter au promoteur, assez cher d'ailleurs, dans le but de valoriser une partie du plan d'eau, de faire de la gestion intégrée de l'eau de pluie, mais aussi de construire 80 logements, appartements. Donc sur l'eau. Et donc on était relativement content, mais en même temps déçu, parce que le combat était pas terminé, parce que après avoir vécu cette pandémie, vraiment on doit remettre les pendules à l'heure. Et avec d'autres collectifs qui se battent pour garder les sols vivants, voilà, on continue à se battre pour dire non, c'est pas l'endroit où il faut construire des logements. Ce n'est pas ça, c'est pas 80 logements qui vont régler le problème du loyer abordable ou de l'immobilier abordable, qui va régler le problème des logements sociaux et de la liste des 51 000, maintenant j'ai lu personnes en attente de logement social. Donc voilà, c'est notre combat actuel.
Et justement, il y a deux choses. C'est effectivement cette lutte pour défendre une ville qui ne soit pas complètement imperméabilisée par le béton et la construction sur chaque zone verte, mais c'est aussi cet enjeu plus de défense de la biodiversité. Donc, je ne sais pas si vous voulez enchaîner d'abord par rapport à cette question de l'argument des logements qui manquent à Bruxelles, et je pense qu'il y a des arguments qui montrent qu'on peut tout à fait faire des logements ailleurs que sur les rares zones qui restent encore non bétonnées à Bruxelles.
Oui. Et d'autant plus qu'il existe une quantité de logements. D'autant plus qu'il existe une quantité de logements vides. Donc tant qu'on ne s'occupe pas de ces logements vides, qu'on les laisse vides, évidemment c'est sans fin. On peut continuer à construire ad vitam aeternam. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a quand même selon les derniers rapports et les dernières études là de l'ULB, il y a quand même de 19 000 à 27 000 logements vides à Bruxelles, sans parler des mètres carrés de bureaux abandonnés, enfin, ou en tout cas vides. Et là, il s'agit d'1 400 000 actuellement, et on va vers les 2 millions de mètres carrés de bureaux vides à Bruxelles. Donc, si on regarde
au total, il y a certainement moyen de faire face à des problèmes de mal-logement, de non-logement. Il y a moyen de faire face quand même. On ne peut pas partir du point de vue qu'il faut maintenant remplir tous les espaces vides pour résoudre un problème qui, d'ailleurs, est là depuis des années, tout comme les logements vides, d'ailleurs. C'est pas un problème récent. On a l'air de le découvrir, mais évidemment, c'est pas du tout récent.
Et justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait que c'est justement sur ces zones-là que les promoteurs mettent leur accent? Est-ce qu'il y a une question de coût aussi? Parce qu'il y a le Marais Wills, mais là, on a entendu aussi ces derniers jours beaucoup parler du Champ des Cailles à Watermael-Boisfort, où c'est pas exactement la même problématique, mais c'est effectivement aussi une volonté de s'accaparer une zone verte et qui est destinée à autre chose qu'à du bâti bétonné.
Il y a bien sûr la rentabilité. Donc, c'est plus facile de construire un bâtiment rapidement, suffisamment haut, qui correspond à des normes actuelles, bien sûr, que de rénover des bâtiments existants. Mais évidemment, si on compte le coût total, et là on parle évidemment de CO2, d'empreinte CO2, si on compte le coût total, évidemment en termes environnementaux en général, hein, il s'agit également des matériaux utilisés, ça fait pas le poids, ça n'a pas de sens. Mais évidemment, la rentabilité à court terme, et là, on revient sur un débat que vous avez mené récemment avec, entre autres, Claire Scoyer, on parle de la financiarisation du logement, et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est construire le plus vite possible pour que ce soit le plus rentable possible, sans d'ailleurs réfléchir à la qualité à long terme. Le bâti à long terme, c'est pas quelque chose qui est dans les préoccupations actuelles. Et donc, si des bâtiments sont construits et ne tiennent que 15 ans ou 20 ans, pas de problème. Ils sont rentabilisés, on les a vendus. Après, on s'en fout.
Ouais, et à Forêt, il y a énormément de personnes qui ont acheté dans des immeubles récents, qui ont été construits fatalement sur les terrains qui n'étaient pas initialement construits, parce que ça se savait que c'était des zones inondables. Et donc, ils se retrouvent tous avec des parkings inondés. Mais c'est vraiment dramatique de se retrouver jeune propriétaire comme ça, avec des problèmes dès le début. Et c'est non-stop les témoignages. Que ce soit du côté de Saint-Denis, du côté du quartier Wills, Saint-Antoine, toutes les constructions neuves prennent les eaux. Donc on est dans un système aussi au niveau de l'immobilier d'obsolescence programmée. Enfin, je ne sais pas si elle est programmée, mais en tout cas, c'est de l'inconscience. Enfin, voilà, et c'est fait finalement avec l'accord des pouvoirs qui donnent les permis. Donc,
est-ce qu'il y a justement un aveuglement par rapport à ça, ou comme vous dites, voilà les parce qu'on voit quand même, qu'il y a certains petits accords qui peuvent se jouer entre les pouvoirs publics, les gros promoteurs immobiliers ou même les plus petits. Mais ici, comme vous l'évoquiez, il y a deux semaines, on a parlé des promoteurs immobiliers à Bruxelles et du fait qu'il y avait quand même des grosses tentacules qui s'étendaient sur la ville à tous les étages, on va dire. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est...
Je pense que pendant un temps, ça a été de l'inconscience, du moins à Forêt, au niveau de la gestion de l'eau. On se contentait autrefois, avec Vivaqua, de faire des bassins d'orage, sans faire de la gestion intégrée de l'eau de pluie. Alors ça fait une longue phrase qui fait peur, mais au fait, c'est simplement désimperméabiliser ou ne pas imperméabiliser dans les parties supérieures d'un versant. Permettre que toute l'eau s'infiltre, finalement, et de ne pas passer dans les canalisations pour finir dans les stations d'épuration, etc. Et ne pas construire normalement sur les zones inondables. Là, ils ne le font pas encore, parce qu'on vient de construire aussi sur le BEMT, etc. BEMT qui est une zone inondable. Donc, ça percole, hein, comme l'eau. Mais voilà, pour le moment, je dirais, ils ne look up pas très fort. Je crois qu'il est vraiment en temps. Bon, c'est l'expression un peu à la mode, mais elle est quand même bien tombée. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Je pense que si les habitants, on ne se bouge pas pour leur dire, les habitants, ils ont l'expérience. D'ailleurs, Innoviris, tous ces projets, ils demandent l'avis des habitants. Donc, il faut vraiment, c'est eux qui savent, qui connaissent les problèmes, donc il faut les écouter beaucoup plus et pas seulement faire de la fausse consultation. d'habitants ou participatives.
Et justement, comment ça, est-ce que vous avez vu, l'été passé, on a tous entendu les terribles inondations. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, justement, que construire en zone inondable, ça ne va pas, qu'il faut aussi pouvoir gérer ça d'une autre manière? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a enfin ce déclic qui pourrait se faire?
Alors, il y a un déclic qui se fait peut-être, mais avec l'immobilier, tout est avec retard, évidemment. Il y a les remises de permis. Après ça, il faut un certain temps avant que les bâtiments soient construits. Donc, on a toujours ce délai. Et la prise de conscience n'est probablement pas encore suffisante. Les changements de législation ne sont pas là non plus. Les zones inondables sont définies, ou les zones à fort aléa d'inondation sont définies de manière approximative. Et donc, c'est pas suffisant. On nous répond toujours, oui, mais Bruxelles est construite sur des marais. Oui, Bruxelles est construite sur des marais. Mais peut-être qu'il faut réfléchir autrement. Peut-être qu'il faut arrêter d'imperméabiliser en général. On peut parler de stop béton. Ça devrait pas être un mot, inacceptable. Il y a suffisamment d'endroits qui sont déjà imperméabilisés. Et cette prise de conscience-là, sur on ne construit que sur des endroits déjà construits et on ne va pas construire ailleurs, on ne va pas construire à des endroits où la biodiversité s'est développée, on ne va pas construire dans des endroits trop denses. Non, là, le marché est là. Donc, le marché est là, il y a une pression énorme, et puis il y a toujours une espèce d'épée de Damoclès sur ceux qui se battent pour les espaces, les friches, les espaces naturels. C'est, oui, mais le logement, c'est quand même important, c'est urgent, c'est... Cette réflexion de fond, j'ai l'impression, sur comment est-ce qu'on peut prendre ce problème à bras-le-corps en gardant les zones naturelles. Mmh. Et donc, cette urgence devrait faire éclater la vérité, quelque part. Et pourtant, c'est pas encore suffisamment le cas.
Mmh. Oui, parce que c'est une question de santé et de bien vivre aussi. Une ville où il n'y aurait plus aucun espace vert, où tout serait bétonné, les gens... Il périrait.
Et il y a encore des éléments en plus. On parlait d'un service, donc le marais, il apporte des services écosystémiques différents. Et donc, l'un, c'est la lutte contre les inondations, puisqu'il agit comme bassin de rétention. Il peut récupérer jusqu'à 16 000 mètres cubes d'eau, ce qui est l'équivalent de plus de deux bassins d'orage, de petits bassins d'orage. Donc, c'est assez fantastique. Et c'est gratuit tout ça. C'est pas. Il a fallu racheter le marais, mais même comme espace abandonné, il le faisait déjà. Mmh. Et donc ça, c'est un des services écosystémiques. Mais il travaille, c'est tout un système, tout un écosystème qui fonctionne tout seul, sans intervention de l'homme. Il y a une évaporation de l'eau, il y a une infiltration, il y a une temporisation, il y a un filtrage grâce à la roselière. Il y a un effet de fraîcheur dans le quartier apporté par cette eau. Les eaux propres restent séparées des eaux sales. Donc ça, c'est assez important, parce qu'en fait, quand les eaux de ruissellement arrivent dans les égouts, les égouts, quand il y en a trop, et on parle de la situation à Liège, etc., mais même dans des cas beaucoup moins graves, les eaux de ruissellement arrivent dans les égouts, ça déborde, il y a reflux dans les caves, et c'est le cas dans plusieurs rues à proximité du marais. Et évidemment, un problème d'inondation, c'est généralement chez des gens qui sont pas trop aisés. C'est pas toujours rapporté, parce qu'ils sont pas toujours assurés, ou les assurances ne veulent plus les assurer. Enfin bon, donc il y a quand même un problème particulier. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la qualité de cette eau, elle n'est pas eutrophe, donc il n'y a pas énormément d'azote ou de nitrate, etc. C'est une eau assez propre. Et donc, tout ça s'est fait tout seul. C'est là, c'est propre, c'est bien, ça fonctionne, c'est un écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on vient aller construire là-dessus, quoi? Ça nous rend plein de services.
Oui. Bah, par ailleurs, pour le bien-être, en effet, ça rend énormément de services. Bah, enfin, le bien-être humain et le bien-être de la biodiversité. On est quand même dans la sixième extinction de masse. Donc, il faut faire beaucoup plus que tenter de conserver ce qu'on a. Parce que là, en fait, vraisemblablement, on parle du fait qu'on donnerait, ou Bruxelles Environnement ou autre, enfin, qu'il y aurait un accord politique pour conserver 5000 mètres carrés de ce plan d'eau pour permettre la conservation de la biodiversité qui est actuellement. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on réduit de moitié un plan d'eau que la biodiversité va être réduite de moitié. Non, elle va être toute la faune sauvage qui y est. Alors bon, on ne connaît pas, mais c'est un lieu extrêmement au niveau pédagogique, c'est extraordinaire, en pleine ville aussi. Il y a énormément de personnes maintenant qui demandent dans le quartier comme cadeau une paire de jumelles, parce qu'en fait, on peut y observer. C'est vraiment de la faune sauvage. Au fait, c'est le grèpe castagneux, c'est la bergeronnette des ruisseaux, c'est, on a vu le martin pêcheur, le bruant des marais, bergeronnette grisette. Ou voilà, il y a le cormoran. Il y a le héron, et tout ça, c'est uniquement ce qui est visible, alors ou à l'œil nu ou avec jumelles, mais il y a aussi une vie assez extraordinaire dans l'eau, parce que au fait, tout ça est venu, comme Léla disait, tout à fait naturellement. On part d'une flaque, et donc dans cette flaque, il y a de la vie, et puis les moustiques viennent, libellules, etc., donc ça attire les oiseaux, les oiseaux viennent avec des œufs sur leur patte palmée, et hop, c'est parti. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, au niveau de l'apprentissage de la nature, de l'observation, c'est extraordinaire, parce qu'au fait, où est-ce que doivent aller les classes et les écoles pour aller en classe verte? Elles doivent partir très très loin, et là, il y aurait vraiment moyen d'en faire un lieu d'observation de la nature, et pas un parc où on va venir mettre une plaine de jeux en plein milieu d'une roselière qui serait asséchée. Enfin bon, il est temps de remettre, de donner tous ces droits à la nature. Elle est vraiment en danger. On n'est pas maître sur terre. Oui. Et ça percole petit à petit. Et j'étais assez intéressée. Pas bluffé, mais quand même de lire l'Ordre des architectes français, une personne qui a fait un article dernièrement, enfin les architectes disent non, il ne faut plus construire sur le sol vivant, il faut rénover, il faut réhabiliter, il faut réparer, quoi. Il y a trop de choses, d'immeubles à réparer, et avec des matériaux plus nobles, etc. Donc ça vient petit à petit dans la tête des que ce soit des architectes, des promoteurs, mais même dans leur formation, ils n'ont pas nécessairement de formation sur la bio-ingénierie, etc. Donc voilà, c'est, je pense qu'il faut être humble aussi en tant qu'humain.
C'est aussi justement, en vous écoutant parler, pour moi c'est un grand message d'espoir aussi, de justement se dire, ben si on ne fait rien, la nature elle survit, elle se redéveloppe et elle s'en sort. Je veux dire, si on arrête de l'embêter, si on arrête,
C'est-à-dire que il faut.
Ou est-ce
partager...
que c'est mon utopie qui...
Non, mais les oiseaux migrateurs n'ont plus d'espace. C'est, enfin, il faut aussi penser au repos, au maillage, mais au vrai maillage. Il faut que ce soit pas des maillages de pocket park, il faut que ce soit des maillages d'écosystème. C'est pas parce qu'on va faire un petit pocket park avec une plaine de jeu et de la pelouse et un arbre qui va avoir du mal à pousser que ça va faire un maillage. Et même au niveau des plantations de ces petites forêts là, les tiny forests, je sais pas si on dit tiny ou tiny, tiny, hein.
Tiny,
tiny,
je pense.
Ici, on a en fait dans la roselière, si on la laisse aller, c'est ça que c'est extraordinaire à suivre ou à ne pas suivre, ça dépend si on l'entretient ou pas. Si on la laisse aller, dans 70 ans, ça devient une forêt, un petit bois. Et là, on est sûr que tout ce qui va y s'y poser va pousser. Il y a quelque chose qui va venir, quoi. Il faudra pas l'entretenir, mais on peut aussi décider de l'entretenir parce que les zones humides avec des roselières, c'est assez rare à Bruxelles. On a tout, même en Europe, normalement, une zone humide est protégée, hein. C'est super intéressant aussi de conserver une roselière. On en a une très belle grande là qui est menacée avec les projets de construction. Et voilà, c'est là aussi que va s'abriter une certaine faune. Et c'est essentiel pour la conservation et l'amélioration. Mais chaque année, on voit des espèces nouvelles au fait s'y poser. Si on y fait des constructions, c'est au revoir notre petit grèbe.
Et justement, là, récemment, dans la presse, on a pu lire qu'il y avait Bruxelles Environnement qui avait sorti une carte des plans d'eau à Bruxelles, et donc que ça avait suscité aussi le fait que le Marais ne soit pas répertorié dans cette carte. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu pour le futur, en fait?
C'est très complexe, cette histoire d'eau. On va essayer de reprendre à la base. C'est-à-dire qu'à la base, quand on s'est battu en 2017, cette eau qui est apparue était une flaque, une inondation. C'était comme ça que c'était considéré par et le promoteur, propriétaire, et la région. Donc on a dû, entre autres, leur dire, regardez sur observation.be, il y a des naturalistes qui ont quand même constaté qu'il y avait 170 espèces qui sont quand même très typiques d'un plan d'eau. Donc, il a fallu quand même reconnaître que il y avait de l'eau. Maintenant, lui donner la définition, c'est très difficile. C'est-à-dire que pour le moment, dans le PRAS, dans le plan régional d'affectation du sol, puisque quand il a été la dernière fois mis à jour, ce Marais Wills n'existait pas, enfin n'était pas reconnu comme plan d'eau. Donc maintenant, pour le protéger, il faut qu'il soit inscrit dans le plan, dans le PRAS. Alors, à propos de cette carte, il existe déjà une carte, mais qui est indicative des zones humides sur Bruxelles, qui est faite par Bruxelles Environnement. Mais il va y avoir aussi, ce qui a été annoncé, une carte du réseau hydrographique et qui devrait reprendre le plan d'eau, mais ce que nous craignons, c'est qu'ils ne reprennent qu'une partie du plan d'eau. Alors, je me perds un peu. Cette carte, elle risque d'arriver après des travaux qui sont prévus sur le Marais Wills. Donc c'est là qu'il y a une sorte de charrue qui vient avant les bœufs, parce que les travaux vont se faire avant, et puis il y aura la carte, et au besoin on réadaptera la carte pour reprotéger. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas dans l'ordre qui nous semble logique, hein, en bonne mère de famille et père et parent de famille. Ça nous semble pas logique, et on pense qu'il faut protéger dès maintenant le plan d'eau. Parce que, à savoir que normalement, alors, il y a des définitions où on protège un marais, où on protège un plan d'eau. Normalement, sur un plan d'eau de plus de 100 mètres carrés, on ne peut pas construire, du moins, on ne peut pas le réduire, on ne peut pas l'abîmer. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires. On sent qu'il y a une volonté, on peut dire qu'on remercie quand même de l'avoir acheté. Enfin, c'était une belle spéculation, hein, vraisemblablement, quand même, abandonner son terrain, arriver à ce que la région le fasse passer en affectation logement, donc qui fait monter le prix du terrain. Ça, j'imagine que Claire l'a expliqué la fois passée. Elle a quand même bien gagné. Donc, on voit quand même qu'il y a une volonté, mais ce n'est pas assez. Il faut être beaucoup plus radical. Il est temps là.
Et du coup, pour revenir, c'est la région maintenant qui est propriétaire du terrain, et la commune de Forêt, elle a quoi comme pouvoir, enfin comme latitude par rapport à ça? Quelle est aussi la position de la commune?
Alors, la position de la commune, la commune, c'est la même majorité que la région. Voilà, tout est dit.
Oui, donc ils sont.
Voilà. Mais on sent quand même que même à la région, il y a quand même des tiraillements. Côté Rudy Verwoerd ou Pascal Smet, ils veulent continuer à construire. Ils mettent sur la table le besoin de logements sociaux. Alors que c'était, je fais pas de politique, mais c'était quand même les socialistes qui étaient déjà là au pouvoir, et on se rend compte qu'ils ont construit, on a perdu 13% de sol vivant, et puis on se retrouve encore avec encore plus de besoins de logements sociaux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une gestion qui...
Oui, parce que c'est ça, vous évoquiez le dossier d'IEB et Claire Scoyer qui en parlait il y a 2 semaines ici dans les studios. On voit que les constructions des promoteurs immobiliers, c'est du logement plutôt pour la classe moyenne supérieure et pas du tout des logements sociaux. Et donc, c'est ça aussi qui est un peu aberrant. De voir qu'on continue à brandir cette nécessité de logement pour détruire les rares zones qui restent à Bruxelles, mais que ce qui est construit in fine ne correspond pas aux besoins.
Oui, alors dans ce cas-ci, peut-être qu'ils vont rentrer dans le moule et faire, on va quand même construire c'est quand même du public maintenant. Alors public ne veut pas dire social nécessairement, ça peut être de l'acquisitif moyen. Hein. Dans notre cas, chaque cas est différent en fait au niveau de la discussion. Parce que je disais tout à l'heure, c'est pas ça qui va régler le problème en construisant sur quelque chose qu'on a d'unique. En fait, tous ces terrains pour lesquels des gens se battent actuellement sont juste des choses uniques, sont en voie de disparition. Donc, allons trouver la solution ailleurs.
Et parce que vous évoquez, il y a aussi, il y a la friche Josapha aussi. On a parlé du champ des Cailles. Tout à l'heure, vous évoquiez le BEMT aussi, qui est aussi peut-être en tension avec la volonté justement à Forêt de délocaliser le stade de l'Union Saint-Gilloise. Donc il y a quand même beaucoup de tensions qui sont en jeu. Comment est-ce qu'il y a une coordination de ces projets-là qui existent, de ces groupes de défense de ces lieux-là qui...
Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, quand même, on se rencontre régulièrement, et donc a commencé une série de marches sur les sites en danger. Donc, il y a eu au Champ des Cailles le 13 ici
dimanche.
Et le 13 mars, il y aura à la friche Josapha. La suite, elle n'est pas encore annoncée, mais en effet, on va vers les mêmes arguments, on se renforce les uns les autres, on n'essaye pas de tirer notre couverture à nous, quoi. C'est le même combat, en fait. Hein. Et alors, on est tous dans la même lignée, c'est-à-dire que, évidemment, non, il ne faut pas choisir entre oiseaux et pauvreté. On se bat tous pour qu'il y ait du logement abordable, pour qu'on ait une ville vivable, vivable et pour la nature et pour l'humain. On est tous sur la même longueur d'onde, donc je pense que c'est important aussi, parce qu'il y a aussi Turneke. Voilà, Kayenbemt, etc. Donc il y a pas que les trois d'Ondenberg, il y en a quand même quelques-uns. Et on veut faire masse critique aussi.
Oui, c'est ça. Mm. Et est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'on peut participer des moments où justement vous vous faites...
Je pense que le mieux pour le moment, c'est de venir aux marches. Et là, on fait de belles rencontres. Enfin, la marche de dimanche passé était très agréable parce que c'est quand même ça reste une marche festive. Et les gens se parlent avec leurs slogans, etc. Et donc, celle du 13 mars à la Friche Josapha, il faudra suivre sur
les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux. À mon avis, la presse va suivre maintenant parce que ça va devenir un mouvement. Alors, il y a la jeunesse aussi qui doit suivre, qui vient pour le plan pour le plan climat, mais il y a aussi la biodiversité qu'il faut sauver, et voilà, le plan nature sur Bruxelles, il est un peu dans le vide, hein, là. C'était normalement jusque 2020, et puis là, on n'en entend plus parler du plan nature. Donc voilà, il y a quand même une... il faut donner quelques électrochocs.
Et est-ce que justement, parmi les citoyens et citoyennes, qu'est-ce qui manquerait pour qu'il y ait un réel mouvement de masse où les citoyens se mobiliseraient beaucoup plus par rapport à ces questions?
Je pense qu'ils doivent. Ce qui serait bien, c'est que la majorité des gens comprennent qu'on les utilise, qu'on fait de l'argent sur leur dos, comment est-ce qu'ils peuvent croire que en construisant sur de tels endroits, on va régler le problème de la cherté, enfin de l'explosion des prix de l'immobilier. Comment est-ce qu'ils peuvent croire ça? Et ça, c'est plus difficile parce que c'est moins populaire, mais il y a du monde, mais les gens, ils sont là, les gens. Enfin, il y avait quand même 1000 personnes pour quelque chose qui était, c'était pas improvisé, mais bon, ça se crée. La première marche climat, je pense qu'il y avait 600 personnes à la première, hein, et puis après, il y a eu toute la jeunesse qui s'est réveillée, donc. Ceci dit, il n'y a pas qu'en marchant dans la rue que les choses fonctionnent, hein. Il faut aussi aller suivre les dossiers, aller faire du lobbying, comme les promoteurs immobiliers font du lobbying, et puis peut-être aussi parler aux architectes, maîtres architectes, etc., parce qu'il faut que chez eux ça percole aussi. Il faut qu'ils travaillent avec des biologistes, et pas rester devant l'écran à faire leur schéma sans venir voir sur place, quoi. Je les aime bien, hein, c'est pas ça. Il faut vraiment faire une table ronde de différents experts, que ce soit paysagistes aussi, biologistes, tout ça. Il faut.
Mais justement, peut-être qu'une des difficultés, je sais plus, je lisais un article dans lequel vous expliquiez aussi que vous étiez quasi tous pas auto-formés, mais que vous étiez pas forcément spécialiste à la base des questions que vous portez.
Ah non,
et donc
pas du
c'est
tout,
ça qui est beau aussi et qui va à l'encontre de ce qu'on essaye de nous faire penser, que c'est des discussions réservées justement aux experts, que les citoyens n'y connaissent rien et ne peuvent pas avoir...
Oui. Non, je pense que en fait ils savent, que les citoyens savent, mais le problème c'est qu'il y a des pressions, c'est que il y a l'urgence aussi. Il y a l'urgence, le court-termiste électoral. Il y a des choses qui vont. Il y a des choses qui vont et trop vite et d'autres qui vont et trop lentement. Il faut voir ce qu'on met comme valeur en avant.
Et quelles sont les prochaines étapes, du coup? Est-ce qu'il y a des...
Alors, en tout cas, donc je parlais du 13 mars, ça c'est pour le combat collectif, et ça ce sera à la Friche Josapha. Et pour ce qui est du Marais, comme chaque année depuis 3 ans, on participe à la semaine bruxelloise de l'eau, et donc on va avoir des visites guidées tout le dimanche 27 mars. On va avoir la venue de Vinciane Després le mardi 20 22 à 6h30 et la présentation d'un livre « Nous ne sommes pas seuls » paru au Seuil de Léno et... enfin bon, c'est un truc super intéressant.
Antoine Chopot et Léna
voilà.
Ballot.
Merci. Léna Ballot. Qui nous avait d'ailleurs invité à Notre-Dame-des-Landes pour présenter le Marais Wills. Donc, la France connaît le Marais Wills. Wills. Et alors, voilà, c'est surtout les semaines bruxelloises de l'eau.
Qui aura lieu donc, je pense, du 20 au 27.
Au 27. Et alors pour les écoles aussi, si on a des enseignants qui nous écoutent, le jeudi, il y a aussi des propositions de visites guidées pour les écoles. Alors ça, on retrouve les informations pour les écoles et pour le reste aussi, mais elles ne sont pas encore mises sur le site. C'est sur c'est coordinationsaine.be qui coordonne en fait toutes ces journées de bruxelloises de l'eau.
Et sinon, on peut venir tout seul se balader au Marais Wills.
Tout à fait, c'est ouvert voilà. 24 heures sur 24.
C'est, ça. Et c'est l'entrée derrière le bâtiment, enfin alors, sur le côté, ça dépend d'où on vient.
Oui, il y a deux entrées. Il y a l'entrée avenue Valvolxem entre le Wills et le Brass, et on descend simplement les escaliers, on traverse un joli potager qui va être en transformation aussi. Là, il va y avoir une grande entrée qui va être créée. Ou alors, on arrive par l'arrière du Wills, par le parking du Wills. Mmh. Voilà.
Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne le voit pas, en fait. On peut passer tous les jours sur l'avenue Van Volsem et ne jamais se douter qu'il y a cet endroit.
Pour le moment, oui. Ben, c'est sûr qu'une des volontés de la région... Et c'est bien, c'est aussi d'essayer de le rendre plus visible. Voilà, et puis il y a ce métropole qui est un bâtiment les pieds dans l'eau, en partie classé, mais dans voilà, et lui il faut encore lui donner une affectation. Et là il y a tout un programme, un bureau de recherche qui fait les consultations, etc., voir ce qu'on peut en faire. En tout cas, moi j'ai participé au panel citoyen et la table était unanime, c'était en faire un lieu consacré à la nature, un pôle nature en tout cas. Voilà, donc on espère que la population sera entendue, quoi.
Eh ben, on espère aussi. Merci beaucoup, Leïla Ben Salem et Geneviève Kinet, d'être venus parler du Marais Wills. Donc, on retient le 13 mars pour la marche à la Friche Josepha, le 22 mars avec Vinciane Després. Et les auteurs du livre, on peut réserver, il faut réserver.
Oui, c'est à l'adresse marewills@gmail.com.
Voilà, donc n'attendez pas, je pense que ça va être vite. Je ne sais pas combien de places il y a, mais
entre 90 et 100, on a lancé les invitations, l'information il y a quelques jours et ça oui, il faut se dépêcher.
Voilà.
C'est à 18h30 au Brass, mais on répondra au mail hein, s'il y a des questions.
Eh bien, merci beaucoup et longue vie au Marais Wills.
À tout le Marais Wills.
À tout le Marais Wills, oui.
Merci de nous avoir invités.
Voilà, merci à vous d'avoir répondu. On poursuit, on termine presque, c'est Promesse de l'aube.